vous m'en direz tant ?
La nouveauté que constitue le grand oral au baccalauréat m'a inspiré de vous parler de la rhétorique. Ce mot, dont l'histoire nous plonge dans la Grèce antique, cache en son sein des problématiques bien actuelles et très importantes. Il se traduit littéralement du grec par « technique de l'art oratoire ». Et celui qui pratique la rhétorique est officiellement un rhéteur et non pas un rhétoricien, terme plutôt péjoratif. C'est Aristote qui a immortalisé et le mot et la technique dans un ouvrage daté d'environ -329-323, avant notre ère bien sûr, traitant de l'art oratoire. Art ou science ? Un peu les deux probablement, car cela requiert de la rigueur logique et une habileté à trouver les mots qu'il faut, le style qu'il faut pour arriver à ses fins. Et la fin, c'est de persuader, ce qui est un petit peu différent de la science qui, elle, cherche à prouver. Là, premier problème bien contemporain, la science qui se contenterait d'apporter la preuve de quelque chose n'aurait pas pour autant la faculté de convaincre les gens, et notamment les non-scientifiques qui ne sont pas rompus à l'exercice de la preuve. On le voit bien, la science progresse inexorablement, mais l'humanité reste encore largement figée dans des croyances ancestrales. Elle n'est pas convaincue. La rhétorique est quelque part entre la preuve, l'argumentation, la démonstration, entre la persuasion, la pédagogie et ce qu'on appelle aujourd'hui la communication, avec toute la psychologie qui s'y rattache. D'ailleurs, notre Aristote avait divisé son ouvrage en trois livres. Le premier consacré à la définition et au fonctionnement de la rhétorique, le second à la psychologie des locuteurs et le dernier au style. C'est cette complexité même qui met la rhétorique entre la science avec sa pure et dure logique et l'art avec ce qu'il recèle d'interactions parfois mystérieuses entre l'auteur et l'auditeur ou le spectateur. Pour la logique, Aristote avait déjà donné, mais dans un autre ouvrage, l'Organon. Mais il a dépassé le cadre purement physique où la logique s'applique pour un autre plus vaste qui inclut l'être humain, avec tout ce qu'il peut offrir de surprise, et où l'émotion le dispute à la raison. Quoi qu'on fasse, la parole transporte toujours de l'émotion. Le combat entre la raison et l'émotion est probablement éternel, et nous sommes aujourd'hui encore ballottés entre ces deux grands maîtres dans notre vie sociale notamment. L'éducation, l'information, la démocratie mêlent ces deux tendances et il est toujours difficile de les départager. Mais puisque le grand oral du bac coïncide avec la dissertation de philosophie, il n'est pas inutile de retourner du côté de la Grèce antique, dont, même si c'est un petit peu simplifié, on peut dire qu'elle a apporté au monde la logique, la science et la philosophie. D'ailleurs, tous les grands penseurs de cette époque sont plus ou moins assimilés à des philosophes. Mot finalement passe-partout, puisqu'il signifie « qui aime la sagesse ». C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, où les philosophes sont rangés dans des cases à part et en tout cas sont bien moins révérés que leurs ancêtres athéniens. La rhétorique nous ramène à l'époque des sophistes, qui, à l'origine, étaient justement ces orateurs prestigieux. Je vous parlais d'Aristote, mais il faut aussi citer dans cette époque Socrate et Platon, qui, lui, s'opposa aux sophistes. Que leur reprochait-il ? La rhétorique faisant le grand écart entre la rigueur logique de la preuve et en quelque sorte les ruses nécessaires à la persuasion pouvait de temps en temps pencher du mauvais côté. Aujourd'hui, un sophisme est un argument habile, efficace, mais masquant un raisonnement erroné. N'ayant en vue que la persuasion, les sophistes prenaient parfois des libertés avec la vérité. Il y a une sorte d'éthique de la rhétorique qui, comme toutes les sciences, tous les talents, peut concourir aussi bien au mal que au bien. Les Romains ont importé la rhétorique grecque, comme les dieux, les avancées scientifiques, les techniques architecturales. Mais à Rome, l'art oratoire va s'éloigner progressivement de la rigueur constructive, de la logique argumentaire, pour aller vers ce qu'on appelle l'éloquence, où le style devient de plus en plus important. Partout en Europe, la rhétorique a été enseignée dans les universités, et on en faisait grand cas. L'art de la communication orale reposait alors sur 5 piliers. L'inventio, qui était l'art de trouver des arguments convaincants, la dispositio, celui de disposer justement les arguments de manière ordonnée, l'elocutio, qui est simplement l'art de trouver des mots qui mettent en valeur les arguments, et, très important, même si cela paraît presque hors sujet, l'actio, donc l'action, car la gestique, parfois très codifiée, faisait partie de la rhétorique. Il restait un petit problème, la memoria, car un bon discours doit être mémorisé et même, dirais-je, mémorisable. Si vous avez les 3 premiers piliers, vous êtes déjà bon pour l'exercice de la dissertation. C'est après que l'exercice oral commence. L'oral vient-il donc après l'écrit ? Autre problème jamais résolu. On apprend à parler avant d'écrire. Et notre cerveau d'enfant se construit d'abord beaucoup avec de l'émotion. La logique, le raisonnement viennent plus tard avec l'écrit. De nombreux écrivains lisaient leurs écrits à haute voix pour mieux en apprécier la qualité et même parfois infligeaient cela à leur entourage. L'oral ajoute-t-il à l'écrit ou prend-il sa place ? C'était un peu ce que Platon reprochait aux sophistes. Pour les chroniqueurs de radio comme moi, mais aussi pour les orateurs publics ou les enseignants, c'est une question terrible. Si on écrit tout le discours, il sera en principe construit selon une grande rigueur logique, mais lorsqu'on le dira, le résultat risque d'être impersonnel, sans inspiration, sans appropriation véritable des excellentes idées exposées. Si on n'écrit rien et que l'on fait juste confiance à sa mémoire, le discours risque d'être désordonné et des articulations importantes du raisonnement tenu d'être affaiblies, voire ruinées. Alors, le moyen terme consiste à écrire, plutôt en gros, ce qui est incontournable, ce qui ne peut s'exprimer que d'une seule manière, ainsi qu'un plan dont il ne faudra pas trop s'écarter. Pour le reste, on peut effectivement faire confiance à sa faculté d'invention et ne pas brimer ses tendances naturelles d'acteur. Mais il reste un aspect, sinon rigoureusement de la rhétorique, mais au moins de l'éloquence. C'est l'aspect, je dirais, sportif. C'est fatigant de parler, notamment pendant longtemps et d'une voix forte. Démosthène, encore un grec, s'entraînait à parler face à la mer avec des cailloux dans la bouche. Alors aujourd'hui, on peut s'entraîner avec un masque. Il faut aussi réfléchir à plusieurs choses à la fois. Ce que l'on dit, ce que l'on vient de dire, ce que l'on va dire tout de suite ou même un peu plus tard. À côté de la performance sportive, il y a aussi la performance intellectuelle qui n'est pas toujours d'avoir des idées géniales, mais qui aussi est faite d'endurance, de puissance de calcul, ainsi qu'on dirait d'un ordinateur. Multitâche, évidemment.